Radio Libertaire, 89.4 sur l'ensemble de l'Île-de-France, et aussi, je vous le rappelle, vous pouvez écouter Radio Libertaire sur Internet. Alors, c'est une émission, première émission en direct de la matinée, qui s'appelle Chronique Hebdo. Les présentations, je vous le dis, vous pouvez aller voir le blog de Chronique Hebdo, donc où vous verrez des tas d'informations hein, sur ce blog. Donc José s'en occupe, et aussi Fred Maurice l'illustre. Et puis les informations un peu circulé, puisque je vous avais dit la semaine dernière que nous recevons aujourd'hui, donc nous sommes le 25 mai, Claude Guillon, hein, donc annoncé la semaine dernière. C'est annoncé aussi, si vous êtes curieux, sur les blogs de Claude Guillon, en particulier un de ses blogs généralistes, comme il dit, Ligne de Force, et puis l'autre sur la Révolution française, la Révolution et nous. Donc ce blog-là, et aujourd'hui, Claude Guillon est présent dans les studios de Radio Libertaire pour dernier ouvrage ou ouvrage actualisé, on va voir ça avec lui, mais en tout cas son dernier ouvrage qui s'appelle « Notre patience est à bout ». Alors, le sous-titre est important, tu vas nous le dire, 1792-1793, les écrits des enragés, les écrits des enragés. Et je vais, Claude, juste lire la quatrième, comme on dit, de couverture pour situer un peu aux auditeurs l'ouvrage et voir évidemment que cet ouvrage est complètement d'actualité. Alors, en 1792-93, à Paris, à Lyon, à Orléans, dans les sociétés populaires, les clubs, les émeutes, ceux qu'on appelait les enragés, la frange la plus radicale de la Révolution française, entendait poursuivre la Révolution à laquelle modérés et jacobins rêvaient de mettre un terme. Alors on verra au cours de cette émission que pour certains, la Révolution était déjà terminée, puisque tu avais repéré que mais le journaliste, évidemment on peut pas attendre eux d'autres choses, d'eux disaient que 80 c'était 1789, la Révolution française, après c'était terminé. Alors on va voir que la période de 10 ans, on va en parler, alors les enragés, il et elle, c'est important puisque enragés au masculin, au féminin, on verra ce matin, donc les acteurs, les noms de ces enragés, les noms, les acteurs masculins et les acteurs ou actrices féminines. Et alors, là aussi, l'intérêt, l'actualité, puisque tu nous dis, dans cette quatrième de couverture, qu'ils ont laissé des brochures, des discours, des journaux, un bouillonnement d'idées, ça on va le voir ce matin, et de pratiques, qui relèvent, on va en parler, des pratiques, pour certains, on verra le lien direct ou indirect avec les anarchistes, démocratie directe, droit de tous aux produits de base, résistance à la dictature du commerce, pleine citoyenneté des femmes, sanctions contre les spéculateurs et les agioteurs. Ces questions, tu dis, restent d'une brûlante actualité et continuent de nourrir notre réflexion et surtout notre impatience. Alors, Claude, je rappelle aux auditeurs que tu étais venu dans cette émission, mais tu es déjà venu, tu viens depuis très longtemps sur Radio Libertaire, il y a 2 ans, hein, c'était à peu près un tout petit peu plus, au mois d'avril, pour ton ouvrage « Comment peut-on être anarchiste ?» Hein, je le rappelle pour les auditeurs que vous pouvez toujours le trouver, je le rappelle aussi, le trouver à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, et donc qui a été édité aux éditions Libertalia. Tu étais venu aussi il y a bien longtemps, et un ouvrage aussi, je le rappelle, d'actualité brûlante, la terrorisation démocratique, hein, la terreur démocratique. Là aussi en 2009. Hein, voilà. Claude, alors, j'ai fait cette présentation, je pense que, bon, l'émission, on a 2 heures, on va, m'avait dit, évoquer au fil du livre, hein, oui, tu montres, là je vais monter un petit peu, voilà, au fil de l'ouvrage, eh bien on va commencer par le début, hein, et puis puisque j'ai commencé par la quatrième de couverture, et je voulais te demander, cet ouvrage-là, déjà, il y a une publication qui a plus de 20 ans, il me semble, hein, pour... Alors voilà.
Alors j'ai publié d'abord bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai publié un premier livre sur les enragés que tu évoques peut-être avec lequel tu confonds, qui était en publié en 94, quelque chose comme ça, à la digitale. Et qui concernait deux enragés, d'ailleurs le titre était « Deux enragés de la Révolution », Théophile Leclerc et Pauline Léon. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, « Notre patience est à bout », qui est sorti chez IMHO, I-M-H-O, est une réédition augmentée et revue, effectivement. Il était sorti en 2009, donc c'est-à-dire plus de 7 ans maintenant, ce qui est déjà pas mal. La première édition étant épuisée, l'éditeur m'a très aimablement proposé de ne pas faire simplement une réimpression, mais de faire une réédition complète avec des ajouts, des modifications, voilà. Ce qui fait que au lieu de rééditer le livre précédent, j'ai ajouté un certain nombre de personnages, donc de textes, donc de biographies, et j'ai également publié un très long texte en fin de bouquin sur les activités d'un des enragés, on va expliquer un peu qui étaient ces gens-là, qui s'appelait Théophile Leclerc, après la Révolution, parce que c'est intéressant de voir... Qu'est-ce que ces gens-là deviennent quand ils ont eu la chance et de ne pas être guillotinés et de sortir de prison, qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite?
Oui, alors dans ce cas-là, je veux dire tout de suite aux auditeurs, on verra. C'est vrai que il a, par rapport à cette période des enragés, voulu, puisque tu as intitulé cet annexe l'enragé Leclerc. Après 1794, un rond de cuir qui a la bougeotte. Il a postulé donc à l'emploi public, hein, pour rentrer dans l'administration.
Oui, ça, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est intéressant parce que ça peut être décevant d'un certain côté, parce qu'on voit un personnage qui a figuré parmi les plus radicaux de la Révolution, qui cherche un poste pour sa famille, simplement. En même temps, c'est le signe aussi, et ça c'est plutôt rassurant, et c'est une caractéristique de la Révolution, c'est le signe que il s'agissait de gens ordinaires et qui sont devenus un peu connus pendant la Révolution. Pour certains, on les a oubliés par la suite, mais ils sont apparus comme personnages publics pendant la Révolution. Et puis, la Révolution étant terminée, en tout cas dans son cours le plus bouillonnant et le plus radical, eh ben ils se retrouvent comme n'importe qui avec des problèmes, je dirais, de fin de mois, et de la nécessité de donner à manger à eux-mêmes d'abord, et concernant Théophile Leclerc, à une femme et à un enfant. Je voulais revenir sur pour que les gens comprennent un petit peu de quoi il s'agit, d'abord sur les raisons pour lesquelles je m'intéresse à la Révolution française. Ça paraît très loin, la Révolution française.
Non.
À l'échelle d'une vie humaine, puisqu'on a, pour les plus âgés d'entre nous, c'est-à-dire toi et moi, et pour les gens qui nous écoutent, on a fêté le bicentenaire de la Révolution française. Et ça fait déjà un certain nombre d'années maintenant, on est loin du bicentenaire. Et bicentenaire, ça veut dire 200 ans, hein, comme le nom l'indique. Donc on a l'impression que c'est très très loin. En fait, à l'échelle de l'histoire d'une société, c'est quelque chose de très proche. C'est-à-dire que moi je considère, alors c'est une vue historienne, et une vue d'historien si on veut, mais je considère que nous sommes dans une séquence de temps. Nous aujourd'hui vivant en 2017 qui est très courte à l'échelle de l'histoire de la société française et des sociétés humaines en général, et que on n'a pas à considérer des événements comme la Révolution française, ou on pourrait le dire aussi de la Commune de Paris, etc., comme des événements d'un lointain passé, mais au contraire d'un de séquences historiques dans lesquelles nous sommes toujours aujourd'hui d'une certaine façon. Pour donner une idée de, oui, de l'échelle du temps historique, par exemple le capitalisme, qui est également un système très récent, en gros se donne le même âge que la Révolution française, hein, c'est un petit peu plus de 200 ans, ou un petit peu moins suivant les auteurs. Ça aussi c'est très très court. Le christianisme considère qu'il a un peu plus de 2000 ans d'âge. Alors on voit déjà que c'est beaucoup plus long, mais je prends un autre chiffre dans le livre, oui, relativiser.
Voilà, je voulais dire ça. Tu mets l'équivalent de 150 fois l'ère chrétienne et 1500 fois la longévité de ce jour du système capitaliste par rapport à une histoire relativement courte, hein, 300 000 ans. Pour l'homme de Néandertal.
Voilà.
Et t'as bien raison de le faire, puisque on a justement sur ces périodes de temps l'impression actuellement, enfin souvent c'est ça, d'être dans le présentéisme absolu, et puis que ça a toujours existé, et on explique aussi l'histoire avec une durée comme celle-là, extrêmement longue, alors que là, Néandertal, 300 000 ans, tu relativises complètement par rapport à la durée du christianisme, et encore mieux, le capitalisme, c'est donc quelques bribes, quelques secondes, donc ça pourrait être, à l'échelle du temps planétaire, extrêmement relativisé.
Absolument. Ouais, d'autant qu'il faut se rappeler que Néandertal, c'est l'ancêtre de notre ancêtre, hein, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire de l'ancêtre de Sapiens. Donc c'est une espèce ancienne et qu'on considère dépassée par Sapiens et encore plus par nous-mêmes. Seulement, il a vécu infiniment plus longtemps que nous pour l'instant, et on n'est pas sûr du tout de battre leur corps dans les conditions où nous vivons sur Terre aujourd'hui. Et 300 000 ans. Alors, à côté de 300 000 ans, 200 ans, on voit que c'est vraiment une tête d'épingle sur un schéma qui représenterait l'histoire de notre société. Alors, c'est important parce que ça veut dire que l'histoire politique d'une société comme la société française, mais on peut étendre ça à l'histoire du monde, est extraordinairement courte, et que d'une certaine façon nous en sommes encore sur certaines questions d'organisation de la société, comment, qui décide et comment, selon quelle modalité, à une espèce de préhistoire de nos sociétés humaines, et ça montre que une foule de modifications et de progrès, j'espère, sont possibles à envisager et ont déjà été imaginées, commencées, pratiquées au moment de la Révolution française. Et là aussi, c'est assez réconfortant, je trouve, pour nous aujourd'hui, dans la mesure où ces gens qui ont fait la Révolution française ont réussi à abattre un système qui avait des siècles d'existence, qui reposait sur le droit divin, en principe. Hein. Nous avions en France une monarchie de droit divin, c'est-à-dire que le roi était supposé tenir son pouvoir directement de Dieu, ce qui n'est tout de même pas rien. Et ils ont réussi à abattre ce système-là alors qu'ils n'avaient pratiquement aucun bagage théorique et politique, ne serait-ce que parce que il n'y avait pas de révolution antérieure dont ils auraient pu s'inspirer. Mmh. Nous avons des bibliothèques remplies de milliers de volumes sur la Commune, sur la Révolution française d'ailleurs, j'y contribue de mon côté, sur la Commune, sur 36 en Espagne, etc., etc. Quelqu'un qui veut se renseigner sur et méditer sur les révolutions du passé, peut y passer toute sa vie, hein, dans des bibliothèques. Eux, ils n'avaient rien. Ils étaient nourris de quelques philosophes, notamment de Rousseau,
oui,
de quelques expériences, notamment l'indépendance américaine, que la France avait d'ailleurs soutenue, non pas par goût des insurrections, mais parce que ça emmerdait l'Angleterre, qui était la vieille rivale commerciale de la France. Et d'ailleurs, ça joue un rôle dans la Révolution française, puisque, on y reviendra, ça a coûté cher d'aider l'indépendance américaine. Et donc, ils avaient très 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 peu de choses. Ils ont beaucoup inventé. Ils avaient très très peu de bagages intellectuels et théoriques. Et puis, il est bon de rappeler que ils n'avaient pas non plus de gaz, d'électricité, d'antibiotiques.
Oui, difficile. C'est ça, voilà. C'est
de tampons périodiques, oui, de contraception. Tout ça, c'est fait dans des conditions au quotidien qu'on a un petit peu de mal à même simplement imaginer aujourd'hui, et ça n'a pas empêché ces hommes et ces femmes de à la fois de donc d'abattre un système ancien, alors mais qui était certes un petit peu fragilisé par son histoire, par ses contradictions, par les maladresses des gens qui le dirigeaient, et aussi et surtout, je dirais, d'inventer de manière extraordinaire et tout de suite, dès 89, une foule de choses, de processus démocratiques, de démocratie directe, de débats, d'organisation de la société, à partir de vraiment rien. Donc, il ne s'agit pas seulement de leur rendre hommage, il s'agit de voir que là, clairement, il y a une spontanéité populaire qui s'est exprimée de manière très forte, de manière multiple, et qui détermine encore aujourd'hui très largement notre vie sociale dans un pays comme la France. Donc ça veut dire que quand on entend, ce qui est assez fréquent, des gens tenir des propos un peu défaitistes, amers sur le fait que les gens s'intéressent pas, ont pas l'air d'avoir de volonté, etc. Il faut toujours se rappeler que il y a des processus comme celui de la Révolution française qui sont spontanés et qui, après, on y réfléchit en tant qu'historien, on trouve des explications. Mais sur le moment, personne n'avait prévu la Révolution. Personne, surtout, n'avait prévu le cours qu'elle allait prendre. Hein, et avant juillet 89, personne raisonnablement ne pouvait penser une seconde que la France allait devenir une république. Hein, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pratiquement pas de républicains en France, quelques individus isolés qui réfléchissaient dans leur coin, en général en concluant que de toute façon c'était trop tôt. Et c'est le processus même de la Révolution, les erreurs de la Cour, les rapports de force qui se sont institués, qui ont fait que les choses ont tourné comme elles ont tourné, ce qui était imprévisible encore quelques heures avant. Donc il ne faut pas désespérer du cours de l'histoire.
Non, mais pour pour une période plus récente, hein, on se souvient, évidemment, en relativisant, mais l'importance pour 1968, hein, rappeler la plus grande grève de l'histoire de France, hein, quand même, il faut le rappeler, et que là, encore, on se souvient quelques mois, donc avant les événements de mars 68, vient son pontée dans le monde, disait que les gens s'ennuyaient, il se passait rien, c'était une tranquillité, c'était l'ennui partout, et qu'il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas. Et quelques mois ou après, ça a quand même un peu chamboulé la société française. Donc là encore une fois, une période où personne n'avait, il n'y avait pas de signe vraiment annonciateur, hein, puisque le constat c'était celui-là, hein, que c'est la France s'ennuyait. Alors, Claude, ce que je voulais préciser, puisque ton ouvrage, on parle de la Révolution française, évidemment, 1789, mais celui-là, le tien, c'est la période 1792-93, les écrits des enragés, et l'importance que ça peut avoir, d'abord pour les auditeurs, pourquoi cette période, et de le dire, pourquoi les avoir appelés, qui les appelait les enragés, et aussi, autre aspect, la révolution, évoquer une révolution, ceux qui ont fait une révolution à moitié, n'ont fait que se creuser un tombeau. Et ça, c'est évoqué à cette période-là, comme si la révolution, ben, elle était pas du tout terminée, bien au-delà, mais certains voulaient peut-être l'arrêter.
Alors, tout le monde n'a pas nécessairement le déroulement de la révolution.
C'est ça, replacer, oui, peut-être.
Il faut replacer ça un petit peu dans un cadre historique. Nous sommes donc en 89. La récolte, vous savez qu'à l'époque, les gens se nourrissent essentiellement de pain.
Ah, c'est ça, ça aussi. Voilà. Ça, c'est quelque chose difficile à comprendre. Ça,
oui,
hein.
Bien sûr.
Hein,
oui.
Voilà.
Ouais.
Oui, le grain, les grains,
chose qui accompagne,
qui accompagne pas, non. C'est la nourriture.
C'est la nourriture principale, notamment du peuple, donc de la plus grande partie de la population. Or, la récolte du 1788, l'année précédente, a été mauvaise. La récolte de 89 s'annonce médiocre, hein, c'est-à-dire donc à l'été, ce qui, comme toujours, entraîne des phénomènes de spéculation. C'est des gens qui gardent du blé en espérant que son prix va monter, et c'est ce qui se produit. Et donc, on est très inquiet sur ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire le moment où on a épuisé la récolte de l'année précédente et où il va falloir attendre la nouvelle récolte. Si elles sont mauvaises toutes les deux, c'est une catastrophe. Et à la mi-juillet 1789, ça c'est une période qui dit quelque chose à tout le monde, le prix du pain est à son plus haut niveau depuis le début du XVIIIe siècle. Accessoirement, si j'ose dire, en même temps donc que la montée des prix, que la pénurie provoque, les salaires ont tendance à baisser. On a donc une situation qui est explosive. Là-dessus, le pouvoir donc dont je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une monarchie de droit divin, a besoin d'argent. Et pour ça, il y a un système qui n'a pas été utilisé depuis très longtemps, mais qui est une pratique de la monarchie, et qui est de réunir des états généraux. Les états généraux réunissent les trois ordres de la société. Non seulement nous sommes dans une monarchie de droit divin, mais c'est une société d'ordre. Le clergé, la noblesse, le tiers-État. Le tiers-État étant une catégorie la plus vaste en termes de nombre de personnes concernées, qui réunit des bourgeois, y compris certains riches, et des paysans qui représentent à l'époque...
C'est ça, voilà.
Là aussi. Il faut se rappeler ça, difficile à se rendre compte, de se rendre compte de ça aujourd'hui, 85% de la population. Voilà. Donc, en décidant de convoquer les États généraux, le roi fait donc appel à un système, un processus qui est institué, qui est connu, mais qui n'a pas été utilisé depuis 175 ans. Donc ça fait très très longtemps. Les gens n'ont pas la mémoire directe de ce processus. Le but de la réunion des États généraux, c'est de recueillir un consentement à l'impôt, à de nouveaux impôts, hein. Parce que la cour manque d'argent, une des raisons étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intervention en Amérique contre l'Angleterre. Alors ça se traduit de deux manières. D'abord, il y a des assemblées qui se réunissent dans tout le pays, qui ont deux objectifs, élire des représentants aux États généraux et rédiger des cahiers de doléances. Il y en a à peu près 45 000 dans toute la France de ces cahiers. D'une certaine façon, mais le roi ne le sait pas encore, d'ailleurs personne ne le sait, c'est un couvercle qui est soulevé, parce que ça signifie que l'ensemble de la population, avec des nuances, les plus basses classes ne participent pas nécessairement, mais enfin, par rapport à un système monarchique qui est quand même extrêmement verrouillé, on a une espèce de consultation populaire générale dans tout le pays, qui va donner des résultats que la cour n'attendait pas. Et on s'aperçoit que dès ce moment-là, c'est-à-dire dès la réunion de ces assemblées, alors qu'ils sont les assemblées se réunissent dans des selon un découpage administratif qui dépend des régions, parce que tout n'est pas complètement unifié, c'est la révolution qui viendra apporter ça. C'est pas le cas sous la monarchie, donc ça dépend des endroits. On va passer sur ce genre de détails, mais enfin, il y a des assemblées qui se réunissent par ordre, donc, hein, toujours. C'est-à-dire l'assemblée du clergé, assemblée de la noblesse, assemblée du tiers-état. Et dès ce moment-là, il y a certaines assemblées qui exigent de fonctionner sur le principe du mandat impératif, qui est un des principes de la démocratie directe. Un mandat impératif, ça veut dire que soit on interdit à la personne qu'on va déléguer aux États généraux de dire, de faire telle chose ou de voter telle disposition, telle proposition de la Cour, ou au contraire, on va lui intimer l'ordre de voter telle chose, d'apporter telle revendication, d'exprimer tel point de vue. Ou les deux, d'ailleurs. On peut lui dire aussi, tu diras oui à ceci, tu diras non à cela. Et si le représentant élu ne se conforme pas à ses prescriptions, eh bien, il est rappelé et soit on lui passe un savon pour aller vite, soit on en désigne un autre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que cet élément de démocratie directe, le terme démocratie directe n'existe pas à l'époque. Par contre, l'expression mandat impératif existe. On le retrouve dans des
les mandataires. Alors on parle des mandataires.
On parle des mandataires. Oui. Et on parle de mandat impératif. Alors, le mandat impératif n'est pas nécessairement, quoique pour nous aujourd'hui, fasse partie de la démocratie
Claude,
directe.
Claude, je pense, oui, l'évoquer voilà. Avec l'actualité.
Mais il n'est pas nécessairement toujours utilisé dans un sens ultra-révolutionnaire. On s'aperçoit que pendant la réunion des États généraux, certains députés de la noblesse, par exemple, recourent eux aussi à l'idée du mandat impératif quand ils voient que les choses ne tourne pas comme il l'avait prévu, et que notamment on va en venir à un vote par tête, c'est-à-dire par individu, et non pas par ordre, ce qui était prévu au départ. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait un point de vue de la noblesse, un point de vue du clergé, un point de vue du tiers-état, mais le tiers-état qui est l'ordre le plus nombreux et qui représente le plus de monde, puisque j'ai rappelé que ça incluait les paysans, qui sont 85% de la population, demande le vote par tête, c'est-à-dire le vote par individu. Un homme, une voix. On peut dire un homme, une voix, puisque à ce stade, il n'y a pas de femmes élues. Il n'y a que des hommes élus aux États généraux. Et là, les députés de la noblesse, certains députés de la noblesse, certains se rallient à la révolution, d'autres d'abord ils sont inquiets, ils sont pas forcément foncièrement hostiles, mais ils sont inquiets effectivement de ce qu'on vont leur dire leurs électeurs quand ils vont rentrer chez eux. Donc ils disent, moi j'ai pas été élu pour ça, donc je dois revenir devant mes électeurs. La cour et d'ailleurs les états généraux, la majorité des états généraux eux-mêmes luttent contre le mandat impératif immédiatement, parce que c'est considéré comme une mesure trop radical et qui donne trop de pouvoir à la base, si tu veux, populaire. La Cour, quoique condamnant le principe du mandat impératif, admet que des députés de la noblesse retournent devant leurs électeurs pour leur demander ce qu'ils pensent de la nouvelle situation et leur donner de nouvelles instructions, si tu veux. Donc, on s'aperçoit que dès le début, le mandat impératif est quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne très bien, mais qui n'arrange pas les pouvoirs institués. Ce qui est assez logique, puisque le mandat impératif va de pair avec la possibilité de révoquer un délégué ou un député ou un commissaire, peu importe comment on appelle ça. Et donc, ça institue un contrôle possible de la base sur les députés, pour aller vite. Hein, et donc, ça c'est intéressant pour nous qui nous intéressons.
Voilà, actuellement, justement, on va rappeler les auditeurs, sûrement de Radio Libertaire, on le sait bien, les principes des élections, la Constitution, c'est un député, puisque ça va être la votation là dans quelques jours, quelques semaines, c'est un député avec un mandat non impératif. Et c'est défini comme ça avec, alors, il faut le dire aussi, pourquoi, comment ça a été vendu, c'est le moment de le dire, de laisser la liberté à celui qui va être élu de faire ce qu'il veut, et de ne plus du tout, au niveau de l'électeur, une fois qu'il aura mis son bulletin, il pourra rentrer chez lui, là, on ne peut pas parler de mandataire, évidemment, c'est terminé, le député fera ce qu'il veut, et en attendant, s'il fait tout le contraire de son engagement, enfin, de ces promesses, qu'ils entendent, ceux qui les entendent, évidemment, savent bien ce qu'il en est par la suite, attendra, sera tenu d'attendre 5 ans dans le cas précis pour dire, eh ben, je suis déçu, je referai autre chose. Mais montrer bien que cet aspect-là, justement, Claude, on en parlera évidemment au long de cette émission, le lien avec, le lien, puisque certains l'ont dit pour les enragés, on reviendra là-dessus, sur des principes anarchistes, celui-là est un principe important et qui est ce mandat justement impératif qui n'est pas appliqué dans la Constitution telle que la connaît donc dans la République.
Ah ben, non seulement le mandat impératif fait pas partie aujourd'hui de la Constitution, Constitution de 58, c'est celle 1958, c'est celle qui nous régit aujourd'hui, mais il est explicitement mentionné comme étant interdit.
Oui, hein, c'est bon ça.
Ça commence là, et ce qui est intéressant quand voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir comment ça s'est déroulé sur le terrain par rapport au mandat impératif, qui est donc un des principes de fonctionnement d'une démocratie directe. C'est que aujourd'hui, si le mandat impératif est interdit dans la Constitution française, le sous-entendu, qui est d'ailleurs expliqué dans les cours des facultés de droit, c'est que c'est une espèce d'utopie embarrassante dont la sottise a été démontrée, si tu veux, non-praticabilité, démontrée dans le passé, et que donc c'est enrichi par l'expérience de deux siècles de vie politique et sociale que on a écarté le mandat impératif parce que ça marche pas. Quand on regarde le début du mandat impératif institutionnel, c'est-à-dire pendant la Révolution française, parce que il y a déjà eu des expériences de démocratie directe dans certaines assemblées, je sais pas, chez les Gaulois par exemple, antérieure. Sauf que ça s'appelait pas mandat impératif. Là, on a l'avantage qu'on a les termes, on a des définitions très précises par des assemblées locales qui expliquent pourquoi elles veulent un mandat impératif, qu'est-ce qu'elles entendent par un mandat impératif. Donc ça permet de faire des comparaisons. Et on s'aperçoit que ça a été progressivement écarté et finalement interdit pour des raisons très faciles à voir, sur lesquelles on va revenir, mais pas du tout parce que ça marche pas. À la limite, c'est le contraire. C'est parce que ça marche trop bien. et ça marche trop bien, ça commence à marcher trop bien là, pendant la Révolution française. C'est intéressant de voir comment ça marche et comment c'est pratiqué et par qui. Et après, bien sûr, ça gêne les pouvoirs institués qui veulent avancer avec des programmes, avec des réalisations qui ne peuvent pas être mises en cause, alors que dès le début, donc je l'ai dit, dès les élections qui préparent ces états généraux, la question du mandat impératif se pose. Elle va se reposer à l'intérieur des états généraux. Je redis quelques mots pour qu'on ait la suite du déroulement historique.
Oui.
Après, on suivra pas forcément toute la chronologie, mais les gens n'ont pas forcément ça en tête. Ce qui se produit de très important pendant les états généraux, c'est que le tiers-état, donc un des ordres, l'ordre qui représente le plus, la plus grande partie de la population, va se décréter lui-même, s'auto-proclamer lui-même Assemblée nationale. Tous les états généraux, tout le déroulement des états généraux, c'est un rapport de force entre, d'une part, les ordres entre eux, et surtout entre la cour et les différents ordres. Hein. Donc, on peut pas donner tous les détails de ça, mais en gros, les états généraux se sont ouverts au début mai 89. À la mi-juin, donc, les députés du tiers se décrètent Assemblée nationale, ce qui suscite une réaction de la Cour qui leur interdit leur salle de réunion, ce qui donnera, là on retombe sur des images d'Épinal que nos auditrices et nos auditeurs connaissent, pour réagir à cette fermeture de la salle, les députés se réunissent dans la salle du jeu de paume, où ils feront le serment de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une nouvelle constitution. Et donc l'Assemblée devient constituante en endossant le pouvoir qui était jusqu'ici le monopole du roi. Il se passe quelque chose aussi de très important, c'est que la majorité du clergé rejoint le tiers-état. La majorité du clergé étant le bas clergé.
C'est ça, puisqu'il y a un enragé qui est prêtre. Hein.
Oui, tout à fait. On a un enragé qui s'appelle Jacques Roux, qui est un curé, ce qu'on appelle le bas clergé, c'est-à-dire un curé de base, on peut dire. Il y a aussi, bien entendu, un haut clergé qui a en général des positions assez différentes. Mais il faut savoir que à l'époque, devenir prêtre, c'est à peu près la seule façon pour un enfant de milieu très pauvre et notamment de milieu paysan d'acquérir d'une part un peu d'instruction. Il n'y a pas d'école gratuite, laïque, obligatoire. Un peu d'instruction et ce qu'on appelle un état à l'époque au sens de métier. Et donc de s'élever un petit peu au-dessus de sa condition. Mais ça veut dire que la majorité du clergé, ce sont des gens qui viennent de milieux extraordinairement modestes et qui en sont restés très près, puisque par leur fonction, ils côtoient tous les jours des gens de toutes catégories, et ça sera une des raisons pour lesquelles Jacques Roux, qui est, après avoir été en Charente, il vient de province où il a eu quelques ennuis, il se retrouvera au centre de Paris, dans la section des Gravilliers, qui est une des plus peuplées de Paris, et une des plus populaires. Et il sera extrêmement bien implanté et bien connu dans sa section, mais parce qu'il fait son travail de prêtre, c'est-à-dire que il assiste les mourants, il va voir les femmes en couche, il va voir les gens qui meurent de faim. Il a une vision de la société qui est infiniment plus détaillée et plus complète que celle de révolutionnaires par ailleurs tout à fait sincères. Je pense à Robespierre ou à d'autres. Qui n'ont pas cet accès quotidien en plus au peuple et à sa misère, et ça se verra quand Jacques Roux lira en juin 93. Donc là on a fait un petit saut dans le temps devant la convention une pétition que par la suite on appellera le manifeste des enragés, parce qu'ils sont plusieurs à avoir participé à sa rédaction. On voit que dans le texte que lit Jacques Roux devant la convention, en choquant beaucoup les députés, il donne des chiffres extrêmement précis, parce que lui connaît le prix du pain, le prix de la bougie, il connaît les salaires, parce qu'il est dans la population tous les jours. Et c'est ce que vont dire d'ailleurs beaucoup les enragés, Jacques Roux entre autres, mais d'autres aussi, comme Jean-François Varlet, disant nous on connaît les gens parce qu'on vit dans notre section, on va les voir, on parle avec eux tous les jours, on connaît leur misère, on sait ce qui leur arrive. On n'en a pas une vision d'en haut, un peu journalistique. Bien entendu, Robespierre était au courant de ce qui se passait dans Paris, mais il était informé par des amis à lui, par des militants. Il n'avait pas ce contact intime et quotidien avec les gens du peuple qu'ont eu des gens comme Jacques Roux, donc curé, comme Jean-François Varlet, qui lui était dans la section des droits de l'homme, c'est pas très loin d'ailleurs, c'est dans le Marais, comme Pauline Léon, qui était dans une famille de petits artisans, il fabriquait du chocolat. La personne qui est la plus éloignée de ça dans le courant des enragés, c'est Claire Lacombe, qui était, elle, actrice. Mais elle a un point de vue intéressant, parce que en tant qu'actrice à l'époque, actrice comédienne à l'époque, ça veut dire, notamment aux yeux de l'Église, c'est quasiment un synonyme de prostituée. Oui. Hein. Voilà. Donc elle est extrêmement marginalisée. Mais la Révolution lui permet, comme à tous ces gens-là, d'envisager la vie de manière différente et de jouer un rôle social complètement inattendu.
Alors Claude, une précision, enfin maintenant, mais on va le dire, le terme enragé, alors à la fois il est revendiqué, il stigmatise où certains personnages importants de la Révolution française ont voulu, par ce terme-là, faut le rappeler, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que tu parles à un moment de le choix des chevaux, à un moment de qui faisait le trajet entre Paris et Versailles, qui était épuisé, enfin, par ce trajet. On les appelait les enragés. D'où vient ce terme? Il était valorisé, valorisant, stigmatisant pour qui? Et qu'est-ce qu'il représente justement en 92 et 93, au moment où on a évoqué tout à l'heure, on se dit, la révolution, eh bien, elle n'est pas du tout terminée, et la révolution, au contraire, il faut qu'elle reparte. Peut-être il y a un moment, il y a peut-être une... Pour certains, de vouloir l'arrêter, je crois que ça serait important que tu nous le dises, ceux qui veulent dire ça suffit maintenant. Donc on a été en 92-93, il va falloir savoir terminer, tu sais, une grève, hein, faut savoir terminer une révolution. Et donc, le terme enragé, c'est Brissot donc qui l'emploie à l'encontre des...
Alors, le terme enragé...
Voilà, parce que c'est ça pour les autres, je pense.
Le terme enragé, ouais. tu as évoqué le... Ouais. Tu as évoqué la désignation de chevaux de chevaux extrêmement rapides, ouais. Qui vont de Paris à Versailles. Apparemment, c'est l'origine de la métaphore. Dans la pratique politique, cette fois, il est utilisé pendant la Révolution à peu près par tout le monde et pour désigner tout le monde.
Ah oui.
C'est un terme bien entendu péjoratif, mais on peut pas dire qu'il désigne spécialement l'extrême gauche ou l'ultra gauche, pour utiliser des catégories d'aujourd'hui et pour fixer les idées. Tout le monde peut traiter tout le monde d'enragé. Dans un certain texte, Jacques Roux lui-même, que nous considérons aujourd'hui comme chef de file des enragés, utilise le terme à l'égard d'autres. À l'époque, pour désigner les gens qu'on considère comme des extrémistes, on utilise plutôt le terme exagéré. Voilà. Donc c'est progressivement dans l'historiographie, si tu veux, que le terme enragé s'est imposé pour désigner un courant. Alors là, il faut dire quelques mots là-dessus. Les enragés, oui, tels que nous en parlons aujourd'hui, ne sont pas un parti politique. C'est pas un groupe comme on dirait aujourd'hui la Fédération anarchiste, le NPA. Bon. Ce sont pas des gens qui se réunissent régulièrement entre eux pour établir une ligne d'action. Ce sont des gens qui se connaissent, qui ont eu des contacts les uns avec les autres, probablement un peu plus que nous ne le croyons aujourd'hui, parce que il y a des documents qui nous manquent. Mais on considère qu'ils constituent un courant parce que ils ont suffisamment de points communs entre eux, et ces points communs c'est d'une part l'idée générale que la révolution doit continuer. Je reviendrai tout à l'heure à cette idée que tu as évoquée, qui est très répandue et très vite, qu'il faut arrêter au contraire la révolution. Eux disent, tant que, en gros, le sort du peuple n'a pas été réellement amélioré, la révolution n'est pas faite. Donc, où il faut la continuer, oui, où il faut en faire une deuxième, où il faut en faire une troisième, mais en tout cas, on ne s'arrête pas là, et surtout, ça a un lien avec l'idée de démocratie directe, il ne faut pas laisser la révolution aux hommes d'État.
Oui. Et alors, juste la citation, puisque tu l'as repris de Saint-Just, je pense, pour les auditeurs, c'est intéressant de le signaler, ceux qui ont fait une révolution à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. C'est important,
voilà,
ça. Hein?
Oui, parce que c'est l'idée que en faisant une révolution à moitié, on se met en danger, finalement. On apparaît, on est visible, on se met en danger, on se signale à l'attention de l'adversaire et on ne se donne pas les moyens de tirer tout le parti des sacrifices qu'on a fait. Voilà. Donc
ça, on le voit, je pense, pour cette expression, on le voit aussi après, hein, pour d'autres mouvements. Je l'avais évoqué tout à l'heure pour plus récent pour la France, pour 68. De la même manière, une fois que là, ça a été arrêté très très vite. Le tombeau, c'est qu'après on dit c'est fini, hein, tu sais bien, puisqu'on a parlé pour 68, ça s'est déclenché et après tout est retombé, sans parler évidemment que encore une fois les idées, tout ce qui avait été développé à l'époque, eh ben on continuait dans la société, comme tu le rappelles, pour la Révolution française qui continue justement à alimenter l'ensemble de la réflexion sur plusieurs siècles. Alors ça, on leur parlera, voilà.
Alors, oui. Donc les enragés, j'avais commencé à énumérer les points communs qui font que on les aura considérés par la suite comme un courant. C'est-à-dire pas seulement en se fondant pas seulement sur les liens réels qu'il pouvait y avoir entre eux. Ce qui m'intéresse particulièrement chez ces gens-là, c'est que ce ne sont pas des intellectuels, même si Varlet, que j'ai cité, Leclerc, le prêtre Roux,
oui, il y a une formation
à son petit niveau.
Oui, oui.
Ils ont reçu une certaine éducation. Varlet, lui, a été au lycée, carrément. Ce sont pas des théoriciens. Ils sont pas dans une position de surplomb par rapport aux événements. Ils n'analysent pas la révolution que d'autres sont en train de faire. Et ils ne se considèrent pas non plus investis d'une mission qui les distinguerait du peuple dont ils font partie. Tout au contraire, ils et elles, il faut toujours le rappeler, on y reviendra, participent aux événements dans la rue, dans les sections qui sont les divisions administratives de Paris, dans les sociétés populaires, c'est-à-dire dans les clubs, alors des clubs dont le nom est très connu encore aujourd'hui, le club des Jacobins, le club des Cordeliers, qui sont plus ou moins à gauche sur l'échiquier politique de l'époque. Les enragés n'élaborent pas non plus un corps de doctrine cohérent, ce qu'on leur a reproché dans l'historiographie souvent, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent dans l'événement et sur l'événement en y participant. Hein. Et effectivement, en étant pas toujours d'accord entre eux. Alors on sait qu'ils se connaissent, on suppose qu'ils se lisent très probablement et on sait qu'ils se sont rencontrés. J'ai évoqué tout à l'heure juin 93 où cette pétition a été lue à la convention, pétition très largement rédigée par le curé Jacques Roux, mais Jean-François Varlet et Théophile Leclerc ont participé. Ils ont participé parce qu'ils ont été désignés par le club des Cordeliers pour participer à sa rédaction. Donc, ce sont des gens qui se connaissent. En plus, dans un Paris, là encore, il faut rappeler que, tu sais, dans ce film de Prévert, Arletty dit pour se moquer d'un garçon qui la drague.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un si grand amour.
Voilà.
Les enfants du paradis.
Voilà. Et Paris est tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un si grand amour. Et à l'époque, c'est vrai, Paris est tout petit. Ses frontières sont beaucoup plus proches. Les parties habitées sont beaucoup plus réduites. Les couvents, avec leur potager, leurs champs, occupent une place considérable. Donc c'est une ville très peuplée, mais sa superficie est assez faible. Et quand on participe aux événements de la Révolution, ça veut dire que en gros, un lieu, pour aller d'un lieu à un autre où on se réunit à Paris et où les choses se passent, il n'y a pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes à pied, ça tombe bien parce qu'on circule à pied. Tous ces gens se croisent nécessairement. Tous ces gens se croisent et se connaissent. Alors, ils se connaissent pas forcément tous intimement, mais ils se sont tous vus, ils ont entendu un tel parler à l'Assemblée ou au Club des Jacobins, ils ont pu se parler dans les couloirs. Dans un certain nombre de cas, quand ils disent « Oh, mais moi, un tel, je le connais pas du tout », ils veulent dire par là « Je l'ai pas invité chez moi, c'est pas un copain », mais... Ils se connaissent tous, ils se sont tous croisés, vus, écoutés. Alors, de cette attitude des enragés qui se détermine sur le tas et pas toujours entre eux, il y a une espèce de tronc commun qui se dégage et qui justifie qu'on puisse les considérer comme un courant. Ils sont en matière économique dirigistes, c'est-à-dire que ils sont en faveur soit de la nationalisation du commerce, soit au moins, ce qui va dans le même sens, de la taxation des denrées, et surtout des denrées de première nécessité. Alors on a d'abord les grains.
Les grains, rappelés, l'orge aussi, voilà. L'alimentation des chevaux.
Bien sûr.
Parce que c'est ça, c'est important, voilà. Parce qu'on n'imagine pas. Hein,
on est dans une civilisation du cheval qui sert au transport et qui sert aussi à l'agriculture. Donc l'orge qui sert à nourrir les chevaux est un produit de nécessité, de première nécessité dans tout le pays. Et puis il y a évidemment le blé qui sert à faire le pain. Et puis il y a aussi la bougie, parce que c'est le seul moyen de s'éclairer. Et puis il y a le savon, parce que ça sert non seulement à se laver, mais surtout ça sert à toutes les blanchisseuses à faire leur métier. Voilà, donc tous ces produits sont des produits de première nécessité, et en gros tout ce qu'on appelle la sans-culotterie, c'est-à-dire le peuple des faubourgs, est favorable à la taxation. C'est important de mentionner que on peut pas considérer que les enragés exprimeraient un point de vue, tel point de vue qui serait complètement original. C'est plutôt la réunion de toutes leurs positions et leur position politique générale, on l'a rappelé, qui est que la révolution doit se poursuivre, qui forme une espèce de cohérence qui les situe à l'extrême gauche de l'échiquier, là encore pour utiliser des catégories faciles. Ouais. Ils sont d'abord dans la révolution, ils sont terroristes au sens de l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont favorables à la terreur. Ils pensent que, comme un très grand nombre de révolutionnaires à l'époque, ils pensent que il y a une partie des ennemis de la révolution qu'on ne peut qu'éliminer physiquement.
Il y a ça.
Parce que c'est la seule façon de s'en débarrasser. Alors ça prend ensuite la forme d'une espèce de doctrine de la régénération, dont il faudrait étudier peut-être les rapports avec les théories médicales. Je pense qu'il y a l'idée que on est un peu sur le modèle de la saignée, si tu veux. Hein.
Saigner le corps social. Pour le régénérer.
Une partie de la population qui est
Il y a la violence,
qui est gâtée, quoi, qui est pourrie.
Mais aussi cette époque, enfin, il faut le signaler, je pense, il y a un degré de violence inhérente aux rapports sociaux, du fait de la difficulté de la vie, les gens, les paysans, enfin, la vie est pas facile, les conditions justement de sociales sont très dures, et il y a un niveau de violence entre guillemets naturel qui existe à l'époque, et c'est pour ça ce rapport là avec des solutions qui nous semble définitive ou qu'on n'admettrait pas actuellement, pour cette époque-là, c'était l'ordre naturel des choses. La vie, la mort, les animaux malades. Donc on avait un autre rapport à la mort et à la vie.
Bien sûr, les conditions de vie sont extrêmement dures. On vit moins longtemps. Les enfants ont bien plus de chances de mourir en bas âge, voire tout simplement à la naissance. L'ordre social s'impose d'une manière également extrêmement violente, en partie par des moyens non physiques comme l'impôt, mais aussi par des moyens physiques, par la torture, par des exécutions publiques. Enfin, effectivement, la vie sociale et la vie humaine tout court, qui est sociale aussi, mais je veux dire de la naissance à la mort en passant par la maladie, le niveau de violence est sans commune mesure avec celui que nous pouvons connaître, en tout cas dans une...
Et je dis ça pour relativiser par rapport à leur façon de réagir. Actuellement, on verrait ça autrement. On pourrait voir ça autrement. Il faut se rappeler ça. Ouais.
Alors, le problème, c'est que la terreur ne pose pas seulement un problème... qu'on pourrait qualifier de morale, c'est-à-dire éliminer physiquement un certain nombre d'adversaires de la Révolution, elle pose un problème politique de par son fonctionnement même. Et les enragés vont le comprendre, mais ils vont le comprendre un peu tard, quand ils en seront eux-mêmes les victimes. Parce que eux pensent, au départ, ils sont favorables à une terreur qui serait une terreur révolutionnaire, ne s'appliquant que aux aristocrates, aux spéculateurs sur le grain, c'est-à-dire en gros à tous les gens qui sont ou favorables à un retour à l'ordre ancien des choses, ou bien qui profitent de manière immorale des bouleversements révolutionnaires pour faire de l'argent en gardant par exemple des grains alors que y a des gens qui crèvent de faim. Voilà. Eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais ils s'aperçoivent assez rapidement. Je dis assez rapidement, tout est relatif. C'est pas tout de suite qu'il le voit. Il commence par prôner ça. Il y a des articles de Leclerc notamment où les catégories de gens qui promettent la guillotine sont assez nombreuses et variées. C'est une espèce de leitmotiv. Jacques Roux lui-même, dans ce manifeste des enragés que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, qui vient lire devant la convention en juin 93, ne cesse de dire « Est-ce que vous avez prévu la peine de mort contre l'agiotage, c'est-à-dire la spéculation boursière, on va dire ?» Non, alors vous n'avez rien fait pour la Révolution. Donc, jusqu'au milieu de 1793, c'est assez tard, ils sont terroristes. Seulement, ils s'aperçoivent que... d'une part, la terreur va avec la centralisation, c'est-à-dire la centralisation des décisions, y compris des décisions judiciaires. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qui sera pratiqué de nos jours dans les affaires de terrorisme. Toutes les affaires de terrorisme remontent à Paris. Ne sont plus jugés par des tribunaux et même les enquêtes ne sont plus réalisées par les polices régionales. Mmh. Tout remonte à Paris. On retrouve exactement les mêmes réflexes.
Oui, c'est ça.
Dans une démarche qui se veut anti-terroriste, mais que moi j'ai qualifié de terrorisation. Mmh. Donc ça commence à l'origine de ça, c'est pendant la Révolution en 93, surtout en 94, qui est le moment de ce qu'on appelle la Grande Terreur, où les garanties de la justice bourgeoise qui est née là sont abolies, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de preuves pour condamner les gens, ils n'ont plus droit à avoir un défenseur. Et là, les enragés s'aperçoivent que, d'une part, il y a un mécanisme interne à la terreur, qui va à l'encontre de leurs revendications politiques, c'est-à-dire que ça va dans le sens d'une nouvelle centralisation qui n'est plus la centralisation de la cour, mais qui est toujours une centralisation d'un pouvoir parisien, et qui échappe à tout contrôle populaire. Et puis, ils s'aperçoivent aussi, et ça c'est très intéressant, ils font une critique de classe.
Voilà,
de la terreur.
Voilà. Alors, Claude, ce que je pense aborder ce thème, justement, important, hein, puisque tu l'as dit, plusieurs niveaux à l'intérieur des conflits qui apparaissent, et de voir le lien, justement, qu'on pourrait faire. On va en parler avec les idées anarchistes, hein, pour ça, et la manière de l'analyse. Pour certains auteurs de cette période révolutionnaire, on va peut-être une petite partie musicale, comme je dis, permettre aux auditeurs de nous appeler s'ils veulent réagir, s'ils veulent nous poser des questions. Et puis,
volontiers.
Hein, voilà. Et on reprendra donc après cette courte partie musicale. Je vous le rappelle, hein, je vais le repréciser, si des auditeurs étaient venus entre-temps, avaient ouvert leur poste Radio Libertaire. Donc, nous sommes avec Claude Guillon pour son ouvrage « Notre patience est à bout » et on parlait des écrits des enragés, E et E, S, et les femmes. On va voir ça tout à l'heure pour l'idée de non-féminisme. Après cette partie musicale, 1792-1793, je vous rappelle, c'est l'émission Chronique Hebdo, Radio Libertaire, je vous le dis encore, hein, 89.4 sur l'ensemble de l'île de France, sur Internet, et aussi, cette émission est podcastée, donc vous pouvez l'écouter, la réécouter comme vous le souhaitez pendant 5 semaines. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.